Alors, j'aimerais attirer votre attention sur toujours dans les annonces, hein, ce que nous avons partagé mercredi en études bibliques. J'ai passé un moment très agréable avec ceux qui étaient présents. Et j'aimerais vous annoncer que mercredi, nous allons parler de l'amour de l'ennemi. Qui sont mes ennemis? Et si vous voulez savoir ce que j'ai à dire là-dessus, vous savez où nous retrouver. Qui sont nos ennemis? J'étais avec la sœur Joséphine cette semaine et elle avait demandé effectivement de transmettre ses salutations. Mais c'était tellement bien d'être avec elle. C'était comme une petite, un petit culte, quoi. Parce que lorsque je lui ai proposé de lire la parole de Dieu et de prier avec elle, elle a vite fait d'appeler sa voisine de chambre pour nous rejoindre. Et elle a dit, tu prends ta Bible, tu viens lire avec nous, on va prier. Et la dame est catholique, hein, s'il vous plaît. Donc, elle s'est exécutée assez rapidement. Et on a passé un très beau moment. Et donc, effectivement, elle demande de transmettre ses salutations. Ce que je fais. J'ai une question pour vous. Vous vous êtes sûrement déjà posé la question, comment reconnaître un vrai chrétien? Ah, bonne question, non? Comment reconnaître un vrai disciple de Jésus-Christ? Et si nous nous posons la question, c'est que la chose n'est pas si évidente que ça. Ça ne coule pas de source. On ne peut pas regarder quelqu'un comme ça et dire, ah. Lui, là, il ira au paradis et celle-là, eh bien, elle n'ira pas au paradis. Ça ne se fait pas comme ça. On ne peut pas le déterminer aussi facilement. Et c'est d'ailleurs une chose contre laquelle le Seigneur nous met en garde. Parce qu'il faut manier la chose avec des pincettes. Et en paraphrasant, Jésus a pu dire, n'essayez pas, dans une parabole, hein, d'arracher l'ivraie qui pousse parmi le blé. Parce que vous ne sauriez pas faire la différence. Laissez ça au maître. Le maître de la moisson, lui, sait faire la différence. Et donc la question demeure, qui est vrai disciple du royaume de Dieu? Qui est un vrai chrétien, pour parler couramment? Et je veux vous inviter à lire dans un texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. Vous êtes là? Pas encore? Je vous attends. Matthieu 7, versets 21 à 27. Et je lis. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur dirai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui commettez ou vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti la maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents violents ont soufflé. Avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine était complète. Amen. Est-ce que ma gourde? Merci. Après la tentation au désert et après qu'il a pris l'emprisonnement de Jean-Baptiste, Jésus, le représentant d'Israël, le nouveau Moïse, monte sur la montagne pour parler du royaume de Dieu. Merci beaucoup. Et on pourrait aborder le sermon sur la montagne comme répondant à la question « À quoi cela ressemble d'être citoyen du royaume ?» En d'autres termes, qui est vrai citoyen du royaume de Dieu? Qui? Est-ce que nous savons déterminer cela? Et une bonne conclusion de tout le sermon sur la montagne pourrait se trouver au verset 12 de notre chapitre, chapitre 7, où il est dit « Faites pour les autres » tout ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. Belle conclusion, non? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. Et le verset continue en disant, c'est là tout l'enseignement de la loi et les prophètes. C'est ainsi qu'est censé agir le disciple de Jésus-Christ. Celui qui se dit chrétien, qui veut aller dans le royaume de Dieu. C'est l'attitude qu'il doit avoir, c'est le comportement qu'il doit avoir. Toutes ses actions doivent être façonnées par l'enseignement qu'a donné Jésus-Christ dans sa prédication sur cette montagne. Et au bout du compte, tout l'enjeu pour Jésus, c'est d'amener ses auditeurs à devoir faire un choix. Le choix de savoir quelle attitude adopter face aux enseignements qu'il donne. Comment je réagis face à ce que j'entends? Le premier choix que Jésus nous impose, et c'est drôle, hein, parce que je parle de choix, en même temps je dis que c'est ce que Jésus nous impose, de faire un choix. Et le premier qu'il nous impose, c'est de savoir quelle sorte d'auditeur nous voulons être. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les standards de Jésus nous interpellent, en tout cas moi. Lorsque je lis ça, je suis interpellé. Nous pouvons être frappés par des affirmations fortes que Jésus fait dans ce texte. Verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux nécessairement qui rentreront dans le royaume des cieux. » Alors si vous, ça ne vous choque pas, moi ça me choque. Parce que c'est une affirmation fracassante. Seigneur, Seigneur, et ne pas entrer dans le royaume des cieux, c'est choquant. Et ça m'a amené à pousser la réflexion, ça m'a même rendu tremblant de dire que moi, David, debout devant vous, je pourrais très bien dire Seigneur, Seigneur, et au final, au dernier jour, Dieu me dit, je ne te connais pas, va-t'en. Jésus vient donner un enseignement sur le royaume de Dieu et il explique comment fonctionne ce royaume, du point de vue des humains en tout cas. Et comment, pour casser toute désillusion, à la fin de son enseignement, il dit, si vous voulez en faire partie, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Ça ne suffit pas. Vous et moi, nous voulons faire partie de ce royaume, n'est-ce pas? En tout cas, moi. Je veux faire partie de ce royaume. Je veux passer l'éternité avec Jésus-Christ. Je ne veux pas être loin de lui. Nous voudrions qu'il essuie nos larmes, qu'il nous réconforte. Nous voudrions qu'il nous dise « Entre, bon et fidèle serviteur, pour autant. » Il nous dit « Dire Seigneur, Seigneur, ça ne suffit pas pour y rentrer. » C'est un bon début. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas venir à Jésus si on ne le reconnaît pas comme Seigneur, évidemment. Mais nous savons bien, vous et moi, qu'il y a certains pour qui cette déclaration est très superficielle. Cette déclaration n'a aucune profondeur, elle ne provoque aucune transformation de vie. Seigneur, Seigneur, ce n'est que des paroles, finalement. Et quel impact a-t-elle dans ma vie? C'est ça la grosse question. Et pour Jésus, dire des choses belles, dire des choses vraies à son sujet ne permet pas d'entrer dans son royaume. Nous le disions mercredi en étude biblique, Dieu sait exactement ce qui se passe dans le cœur des gens. Lui, il a le détecteur de mensonges qu'il faut. Moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas faire. Dieu seul peut sonder les profondeurs du cœur. Il sait qui dit Seigneur, Seigneur de façon sincère. Il sait qui dit Seigneur, Seigneur de façon superficielle. Et plus tard, l'apôtre Paul confirmera ces paroles de Jésus auprès des Romains, au chapitre 10 de sa lettre, et dira au verset 9 et 10, et le frère l'a dit ce matin, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Dire « Seigneur, Seigneur », ce ne sont que des paroles. Et ce qui est honoré par Dieu, c'est une confession de foi sincère, une confession profonde de repentance et de consécration. Sans ça, on ne rentre pas dans le royaume des cieux. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui disent « Seigneur, Seigneur », uniquement le dimanche matin entre 10h et 12h15, ou uniquement lorsque j'ai besoin, ou je suis en galère, j'ai une difficulté, uniquement lorsque je suis malade, uniquement lorsque je veux trouver un travail, uniquement, j'en passe des meilleurs. Seigneur, aide-moi. Peut-être que certains d'entre nous sont dans cette dynamique. C'est bien de dire Seigneur, Seigneur. Pour autant qu'il soit mon Seigneur en tout temps, pas seulement le dimanche matin de 10h à 12h15, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les 12 mois dans l'année, il est mon Seigneur. Il règne dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. C'est ça, dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Un vrai disciple de Jésus-Christ n'est pas celui qui dit les bonnes choses au bon moment, les belles paroles. Non. Un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est, selon lui, celui qui fait la volonté de son Père, nous dit le verset 21. Ce qui est terrible encore, c'est que Jésus imagine ce jour qui arrive où certains tenteront d'avancer des arguments pour qu'ils puissent entrer dans son royaume. Vous vous imaginez ? Vous allez devant Jésus et vous poussez un peu, vous essayez de faire un deal. Mais tu sais, Seigneur, j'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai un droit d'entrée. Et lui qui dira, je ne te connais pas. Va-t'en. Terrible, non? La triste réalité, c'est que beaucoup risque d'entendre cette réponse. Et pas seulement dans cette église, mais dans toute l'église où le nom de Jésus est professé, dans toutes les églises où les personnes se disent croyants, chrétiens, et qui appellent Seigneur, Seigneur, risque d'entendre « Je ne te connais pas ». Moi, je dis toujours, à propos de ce jour-là, il y aura des surprises au ciel. Les gens qu'on pensait être là, ah, il est où ? Elle est où ? Je croyais que. Et ceux qu'on pensait ne pas être là, oh, il est là, lui, elle est là, mais elle était comme ci, comme ça. Hein. Je ne la supportais même pas. Elle est là. Seigneur, Seigneur, comment est-ce qu'on le pose là, ce Seigneur, Seigneur, dans notre vie ? Selon le Seigneur, prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas cela qui témoigne de notre appartenance au royaume. Ni chasser des démons, ni faire des miracles. Tout cela ne veut rien dire si à côté de cela, nous pratiquons le mal. Si nous vivons comme nous voulons, si la parole n'a aucun impact dans nos vies, si faire la volonté de Dieu est loin d'être nos priorités, Seigneur, Seigneur, à ce moment-là, ne veut rien dire. Que des mots. Et si vous me permettez une parenthèse, parce que ça m'a frappé, moi, le gars chasse des démons, il guérit des malades, et il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et on peut se poser la question, comment une telle personne, qui ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, arrive à faire autant de choses? Vous avez déjà prié pour un malade qui soit guéri? Et pourtant vous êtes sûr d'être croyant. Comment est-ce qu'une telle personne soit investie d'autant de puissance et ne puisse pas entrer dans le royaume de Dieu? Moi, ça me questionne et j'en suis perplexe. Parce que ce qu'il dit, Jésus ici, hein, quand bien même vous auriez chassé des démons ou guéri des malades ou encore accompli plein de miracles, ça ne garantit en aucune façon votre éternité avec Jésus-Christ. Et je crois que cela vient tordre le cou à la pensée que nous avons parfois de croire que parmi les chrétiens, une personne qui chasse les démons, une personne qui guérit les malades, forcément, il a sa place au ciel. Le Seigneur qui dit même pas. Même pas. Alors comment expliquer leur aptitude à accomplir ces miracles? Et donc une première réponse pourrait être que les miracles, et nous le savons très bien, peuvent être opérés par Satan lui-même, par la puissance démoniaque. Satan, grand imitateur du Christ qu'il est, il peut opérer ce genre de choses. Et ça a matière à nous égarer, à nous faire croire ce qui n'est pas vrai si nous n'avons pas ce discernement pour voir si cela vient du diable ou si cela vient de Dieu. Une deuxième réponse pourrait être que Dieu, dans sa souveraineté, pour réaliser ses plans, ses projets, accorderait même à un incroyant la possibilité d'accomplir des miracles. Et cela ne doit pas nous étonner. C'est ce qui s'est passé avec Judas Iscariote, l'un des 12 que Jésus a choisi, qu'il a suivi dans son cheminement, qui a évangélisé comme les autres. Il l'a envoyé deux par deux, il les a investis de puissance, allez guérir, allez réparer les boiteux. Et je vous garantis que Judas, il faisait tout ce que faisaient les autres disciples. Investi de puissance, comment c'est possible ça? Pourtant, Jésus dit de lui que j'ai choisi 12 disciples, dont l'un est un diable. Si ça ne vous étonne pas. Et donc cela a matière à nous pousser à réfléchir, à recadrer nos croyances. Et je ferme la parenthèse. Jésus nous met devant un choix, celui de décider si nous voulons vivre une foi chrétienne superficielle ou alors une foi chrétienne basée sur une relation profonde avec lui, dans l'obéissance à sa parole. C'est ça le choix qu'il nous offre aujourd'hui. C'est le choix d'une vie profonde avec lui, une vie transformée. Plus que le choix de l'université dans laquelle je voudrais étudier, plus que le choix de la profession que j'aimerais exercer, plus que le choix de la conjointe ou du conjoint que j'aimerais épouser, le choix de vie avec Jésus-Christ. C'est le choix d'une vie, le choix de notre vie. Mais il y a d'autres choix, un autre en tout cas, en rapport avec notre texte du jour. Un autre choix à faire qui, lui, est tout aussi déterminant, qui arrive à partir du verset 24, hein, celui du fondement sur lequel nous construisons nos vies. Elle est tout aussi importante. La question qui se pose ici, c'est de savoir sur quel fondement je construis ma vie. Parce que vous savez, il y a des gens dans le monde qui vivent aussi bien qu'un chrétien, qu'un croyant, avec une moralité excellente. Je ne dirais pas parfaite, excellente, et plus excellente que chez nous les croyants. Tellement qu'on pourrait dire d'eux, ben, peut-être que, et pourtant. Il s'agit de choisir sur quelle fondation nous voulons construire nos vies. Et cela aussi revêt une importance capitale. Il en va de notre éternité avec Jésus. Et je nous lis le verset 24 à 27. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu, averse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Verset 26. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu averse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Ici, c'est notre parabole. Jésus utilise la parabole de deux propriétaires qui ont décidé de construire leur maison sur deux terrains différents, deux fondements différents. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que les deux maisons étaient identiques. De l'extérieur, il n'y avait aucun moyen de faire la différence. Les mêmes fenêtres, les mêmes portes, les mêmes couleurs. Rien ne pouvait distinguer ces deux maisons. Sauf le lieu de construction, le fondement sur lequel elles étaient construites. Même architecture, tout pareil. Et dans l'Église, on retrouve ça aussi. Des gens qui sont dans l'Église, ils font tout bien, comme les chrétiens. Ils savent très bien ce que les chrétiens doivent faire. Ils imitent très bien la chose. Et ils passent. Pour nos frères et sœurs. Et si vous regardez bien notre texte, le poteau rose est découvert lorsqu'il y a la tempête. Lorsque la tempête arrive, le moment de vérité est là. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont ou quelles peuvent être pour nous les tempêtes dans nos vies. Cela peut être tellement de choses. Les tempêtes révélateurs. Et certains d'entre nous, j'en suis sûr, ont dû traverser des tempêtes terribles dans nos vies. Des tempêtes qui ont pu ébranler notre foi, notre confiance en Dieu. Des tempêtes de maladie, des tempêtes de décès d'un proche, de décès d'un bébé, la perte d'un conjoint, la perte d'un emploi. Des tempêtes qui peuvent faire mal et qui peuvent nous emmener à un état dépressionnaire. Et ces moments-là sont des moments révélateurs, oui. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il va tenir debout? Ou est-ce qu'il va s'écraser pour ne plus jamais se relever? Ces tempêtes que nous vivons, que nous pouvons vivre, ou si vous n'avez pas encore vécu des tempêtes, vous en vivrez. Ces tempêtes, Ces tempêtes que nous vivons mettent en évidence deux catégories de personnes. Les sages, ce que Jésus considère comme sages en tout cas, et les insensés. Et c'est des catégories que Jésus reprend du livre des Proverbes. Le Proverbe n'a eu de cesse de faire cette catégorisation de personnes, des personnes folles ou des personnes sages. Et vous savez, le livre des Proverbes est noté pour nous parler de sagesse et nous invite à entrer dans ce chemin de sagesse. Ceux qui n'en ont pas demandé, Dieu nous donne. Le sage, c'est celui qui construit sur des fondations solides. C'est celui qui écoute la parole de Dieu, de Jésus en l'occurrence, et fait ce qu'il dit. C'est celui qui construit sur le roc, et ce roc, nous savons bien qui c'est. Jésus-Christ lui-même. C'est ça le sage. Celui qui entend la parole de Dieu et qui le met en application. Ça ne sert à rien de venir s'asseoir sur les bancs de l'église dimanche après dimanche, entendre des messages, des prédications, et d'en faire aucun cas. Vaut mieux rester chez vous. Le sage, c'est celui qui se tient sur ses gardes, qui entend et qui obéit. Le fou, c'est celui qui fait l'inverse, par contre. Soit délibérément ou inconsciemment. Mais c'est celui qui entend et qui n'agit pas. Et c'est drôle parce que il suffit de ne rien faire pour être fou. Hein. Je ne vous connais pas. Allez-vous-en. Vous qui pratiquez le mal. Le fou est pris en faute à cause de son inaction. Parce que ce n'est pas comme s'il décide. Ah tiens, si on n'écoutait pas. Oui, n'agis pas, c'est tout. Jésus nous fait comprendre qu'écouter simplement sa parole et ne pas le mettre en pratique n'est pas le bon moyen pour construire un fondement solide. Pour construire de bonnes fondations, il faut être de ceux qui mettent en pratique ce qu'on entend. Jacques, dans son épître, reprendra cette idée, hein, chapitre 1, verset 22 et suivant. Je commence au verset 21, il dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » 22. « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-les en actes, sans quoi vous vous tromperez vous-même. » Et c'est ce qui se passe avec le fou. Il a entendu, mais il n'a pas agi. Alors peut-être en m'écoutant, vous vous dites, s'il s'agit simplement d'écouter et d'appliquer la parole de Dieu, faisons cela. Appliquons la parole de Dieu, comme si c'était aussi simple. La question c'est, est-ce que vous avez bien compris ce que Dieu nous demande de faire, ce que Jésus nous demande de faire? Est-ce que vous avez bien lu le serment sur la montagne et entendre les exigences de Jésus pour le royaume de Dieu? Prenons seulement ces enseignements qui ont été donnés sur cette montagne. Et qu'est-ce que Jésus nous demande? Endurer la persécution, que notre lumière brille dans un monde de ténèbres, ne pas commettre de meurtre, ne pas haïr, ne pas commettre d'adultère, ne pas convoiter, ne pas se venger soi-même, d'aimer ceux qui nous haïssent, de partager nos ressources de la bonne manière, de prier de la bonne manière, de jeûner de la bonne manière, d'amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre, de ne pas nous inquiéter du lendemain, de chercher d'abord le royaume de Dieu, de ne pas condamner les gens, juger pour certains, etc., etc. Je pourrais continuer longtemps comme ça, des exigences. Et de vous demander de sonder vos vies et de regarder lesquelles. La question, c'est est-ce que nous sommes prêts à faire ces choses? Est-ce que nous sommes prêts à suivre les exigences de celui qui nous appelle? Celui qui risque de nous dire « Je ne te connais pas ». Est-ce que nous nous engageons à cela? Et en réalité, le fondement dont Jésus parle n'est pas tant ce que nous sommes amenés à faire, mais plutôt qui nous sommes amenés à suivre, qui nous sommes appelés à servir. Le fondement dont il parle, c'est lui-même, ce roc inébranlable sur qui il nous demande de construire nos vies. Parce que nous sommes bien incapables de faire ce que Jésus nous demande de faire. Si nous en étions capables, cela se saurait. C'est plutôt la confiance que nous plaçons en lui, lui qui est la pierre angulaire, Jésus-Christ. C'est lui le roc. C'est lui notre fondement. C'est lui notre source de salut. Et vous savez quoi? Le sermon sur la montagne nous conduit vers une autre montagne, celui du calvaire. Celui où Jésus-Christ s'est donné pour nous, pour que justement nous soyons capables de faire ce qu'il nous demande. Et cela, ça lui a coûté. Ça lui a coûté très cher. Tout est accompli, a-t-il dit, sur cette montagne. Il a pallié à nos manquements, il pallie à nos faiblesses. Et c'est pourquoi nous avons tout intérêt à construire sur ce fondement-là, qui est Jésus-Christ, notre roc. Alors je sais que ce sont des choses que nous avons déjà entendues dans le passé, moi le premier, depuis mon enfance. Et pourtant, je continue à ne pas pouvoir bien faire. Je continue à faire des bêtises, je continue à pécher. Mais ce qui m'encourage, c'est que je sais que j'ai quelqu'un sur qui me reposer, quelqu'un sur qui construire ma vie, quelqu'un qui me donne la certitude que le jour J, le jour du jugement, je pourrai entendre « Entre dans mon repos, fidèle serviteur ». Alors que le Seigneur nous aide à bâtir une relation profonde avec lui, une relation construite sur ce fondement solide qu'est Jésus-Christ, pour que lorsque la tempête viendra, nous puissions tenir ferme. Amen.